Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
Salut tout le monde, salut JP.
Pour ce nouvel épisode de la saison 6, on vous fait une trame toujours aussi d'actualité, mais on sort tout de même là, du monde de la finance mondiale. On a fait les trois derniers épisodes là-dessus. On le salue, je sais que Gab, t'allais probablement vouloir le faire également, là, mais les écoutes dans les trois derniers épisodes qui étaient fortement teintées des scandales et des grands mouvements qui se produisaient là, au niveau du secteur bancaire a fait beaucoup d'écoutes. Donc on est très content de voir que vous étiez beaucoup à nous suivre. La même logique du bouche-à-oreille a clairement fait ses preuves pour les derniers épisodes. Donc on salue tous les nouveaux auditeurs, mais également tous ceux qui partagent notre contenu, c'est toujours super agréable. Comme on le mentionnait, c'est un petit peu la conclusion de notre dernier épisode. Là. Je pense qu'on peut enfin tourner la page présentement et parler de d'autres sujets d'actualité. Vous allez voir deux au son de la cloche d'ailleurs aujourd'hui parce que notre trame centrale de l'épisode de la semaine passée s'est avérée vraie. Donc la réaction du public privé a permis de calmer un peu les marchés, de calmer un peu les grandes banques ou les stocks, du moins les grandes banques, ce qui est une bien bonne nouvelle. On va rester à l'affût s'il y a d'autres sujets, mais aujourd'hui, deux trames complètement distinctes. Une transaction notoire qui est annoncée aujourd'hui, là, qui est également très proche de certaines passions que Gab et moi et certains amis entretenons. Et en deuxième partie, là, un autre élément qui vire un petit peu là, au son de la cloche, l'instant économie, place au débat. Donc, on lance ça. Compagnies listées vont être bien évidemment discutées aujourd'hui, surtout en première partie. Donc, je te laisse, Gab, faire le disclaimer de début d'épisode.
Ouais, n'oubliez pas, évidemment, chers auditeurs, que... Pour ceux qui nous rejoignent, c'est peut-être un premier avertissement. N'oubliez pas évidemment que tout ce qu'on discute dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle. Évidemment, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement ou pour faire telle ou telle chose. On vous invite évidemment à prendre contact avec un expert si vous avez des questions sur votre profil personnel. Puis à vous renseigner aussi par vous-même. Je pense que c'est la meilleure attitude intellectuelle aussi à avoir le cas échéant. En effet, tu l'as bien dit, JP. Merci beaucoup, hein, en tout cas, pour vos écoutes. Super content, en tout cas, sur Spotify, puis sur YouTube, c'est excellent. Donc, merci. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Je voulais peut-être vous préciser, évidemment, il y a une petite fonctionnalité qui a été rajoutée depuis quelques semaines. En fait, ça fait deux semaines. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Je pense qu'on en avait touché un mot il y a quelques temps, là, mais notre hébergeur, qui s'appelle Anchor, s'est fait racheter en fait par Spotify, donc maintenant on est comme hébergé en fait directement avec Spotify, donc je crois qu'il y a des fonctionnalités en plus maintenant qui sont disponibles pour les gens qui nous écoutent directement depuis la plateforme Spotify. Entre autres, je crois que vous pouvez vous poser maintenant vos propres questions, il y a comme une fonction Q&A qui existe, donc si jamais vous voulez la tester, n'hésitez pas, mais sinon pour nous contacter, vous êtes toujours au courant, les commentaires YouTube, l'adresse courriel, je vois que c'est celle qui est la plus utilisée, donc... N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, ça vous fera plaisir, puis on essaie de répondre quand même le plus rapidement possible. Puis en tout cas, j'ai bien hâte de discuter évidemment des deux sujets d'aujourd'hui qui risquent évidemment d'être très intéressants. Je ne sais pas ce que tu en penses, JP, je pense qu'on est prêt à lancer le jingle.
Absolument, donc commençons avec notre premier « Au son de la cloche ». Parfait, donc on l'avait mentionné, là, on veut parler d'une transaction qui a été annoncé, là, n'est pas encore conclu, n'est pas encore réglé, ça va être plus tard en 2023, mais une transaction qui a été annoncée aujourd'hui par la compagnie Endeavor pour l'acquisition là, de la WWE, la World Wrestling Entertainment, si je ne me trompe pas, là, qui était une compagnie avant possédée par Vince McMahon et par la famille McMahon même depuis le lancement. Là, c'était d'ailleurs le père de Vince McMahon qui avait lancé cette compagnie-là à l'époque. Et Endeavor, pour la petite histoire, pourquoi est-ce que c'est, je le mentionnais en début d'épisode, là, mais fait partie d'une passion commune là, que Gab et moi et plusieurs amis avons, là, c'est que Endeavor a également fait l'acquisition de l'UFC là, de cela pas si longtemps, je pense que c'était l'année passée ou l'autre année d'avant, là, des mains en partie de ce fameux Dana White, là, donc c'est un peu le passage de compagnie du monde des arts martiaux mixtes et de la lutte sous le même fief, là, sous la compagnie Endeavor. Ce qui est intéressant, et je sais que Gab, tu voulais en parler, là, c'est que techniquement, Endeavor va rester une compagnie indépendante de par le fait qu'elle a un portefeuille de plusieurs autres sociétés. Donc, Endeavor a un titre listé en elle-même. Et l'UFC et la WWE vont devenir une compagnie listée à part entière avec le ticker que, chez Gab, tu avais sorti également, le ticker TKO. On ne sait pas encore le nom officiel de cette compagnie-là, de ce merge entre la WWE et l'UFC, mais ça va être à suivre. La répartition, et Gab va aller plus en détail au niveau de la structure, là, on parle d'un 51% des actions qui vont être possédées par Endeavor pour 49% possédées par les actionnaires actuels de la WWE. Et c'est une transaction qui est quand même assez massive parce qu'on parle de compagnies là, qui s'élèvent. Je pense que le deal met une valeur à la WWE pardon, d'à peu près 9,3 milliards, alors que l'UFC, là, c'est présentement autour de 12,1 milliards, je pense, là, qui était mentionné, ou qui était du moins après les transactions liées à Endeavor. Et on se retrouve un peu avec deux compagnies du monde de l'entertainment. Là. Oui, ça reste que la WWE, c'est un peu des matchs qui sont fixés, là. C'est des scripts et un peu des soap opera à un certain degré, alors que l'UFC, je ne pense pas que c'est scripté à voir l'état de la cage après une soirée de combat. Là. Donc on se retrouve avec deux modèles un peu similaires en termes de ce qui se passe, très différents en termes de produit final, mais qui ont quand même plusieurs similarités en termes de gestion, et je pense que c'est un peu ça l'approche. La WWE a fait ses preuves, a très bien fonctionné sous les McMahon. Il y a eu, bon, scandale lié à Vince McMahon pour des raisons X, Y, Z, là, qui sont quand même importantes à mentionner. Là. Ce n'était pas quelqu'un qui était carte blanche du tout, tout comme d'ailleurs Dana White quand Endeavor a fait l'acquisition de l'UFC. Là. Mais ça reste une compagnie qui n'était pas si mal gérée, qui fonctionnait plutôt bien dans sa division. En fait, il n'y avait pas beaucoup de grands concurrents de la WWE à l'échelle mondiale en termes de suivi, en termes d'attention. C'était d'ailleurs WrestleMania, je pense, le week-end passé, si je ne me trompe pas. Et c'est encore une fois un événement qui était énorme. C'était au stade justement des Rams de Los Angeles, au SoFi Stadium à LA. Et c'était bondé de monde. Et c'est un des plus gros stades en Amérique, si je ne me trompe pas. Donc on se retrouve quand même avec des compagnies qui fonctionnent très bien. L'UFC a une performance qui est aussi là, en grande croissance. Je pense qu'ils ont fait 1,3 milliard de revenus l'année passée, en hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Donc, des compagnies qui se portent bien, mais qui ont possiblement tellement à gagner à agir en partenariat dans le but, justement, entre autres, d'obtenir autant des droits télévisuels que la publicité. On l'a vu dernièrement, le monde du sport, le monde de l'entertainment a tellement eu de la croissance au niveau des nouveaux deals liés à ces fameux droits télé, entre autres, que je pense que la WWE a beaucoup à gagner de l'expertise que l'UFC et même que Endeavor ont déjà mis à profit depuis la transaction qui a eu lieu, la question de l'UFC, on en avait parlé, je pense, d'ailleurs, dans un épisode passé. Et c'est ironique, mais les contrats de la WWE pour la télé sont à renouveler, si je ne me trompe pas, dans les prochains mois. Donc ça tombe plutôt bien. Ça va être vraiment une passe de cash assez significative, à mon avis, ce nouveau contrat-là. Et on verra la suite. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a beaucoup déjà de transitions entre des athlètes et des super vedettes des deux sports. On l'a vu avec, je pense que c'est Ronda Rousey, là, le nom qui me vient le plus rapidement à l'esprit, qui était à l'époque une grande de l'UFC et qui, à partir du moment où elle n'était plus capable de battre personne dans la cage, s'est retrouvée à aller faire de la WWE et avait une réputation significative. On a vu Conor McGregor, d'ailleurs, aujourd'hui, qui est sorti publiquement en mentionnant que c'était globalement une très bonne transaction. On peut peut-être pas nécessairement se fier à son sens des affaires. Oui, il avait un très bon whisky qu'il a vendu, le Proper 12, mais ça reste que bon, ouais. son opinion reste à prendre avec un grain de sel. Mais ça montre un peu le genre de personne qu'il est. Est-ce que McGregor pourrait commencer à faire de la WWE et brûler les planches dans cette scène-là? Absolument, avec la personnalité qu'il a. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de gains entre justement les fameux effectifs de ces deux grandes compagnies d'entertainment-là. Ça reste une transaction intéressante. Globalement, je pense que la WWE et Endeavor ont perdu là, en termes de performance boursière aujourd'hui après l'annonce. Donc ça, c'est toujours intéressant de suivre un peu quel est le premier penchant des investisseurs. Là, je pense que c'était 2% pour la WWE et 5% pour Endeavor. Rien de significatif, mais tout de même, ce sont des pertes. Donc c'est toujours quelque chose qui est intéressant lorsqu'une transaction du genre se produit. Mais on verra la suite. Comme je dis, je pense que Gab, tu voulais peut-être parler un petit peu plus en détail de la structure. Il y a quand même quelques petites technicalités. Vince McMahon ne disparaît pas complètement de la scène en laissant ou en vendant la compagnie familiale. Il garde une place sur le board de la nouvelle entité. Donc, il y a quand même quelques petits éléments qui vont faire en sorte que cette compagnie-là reste intéressante, mais aussi pour les investisseurs. Je pense que c'est un point que tu voulais soulever. La différence entre investir dans Endeavor et investir dans ce qui est compagnie non nommée, mais de ticker TKO, la fusion de WWE puis UFC. Il y a quand même des points intéressants en termes d'investissement aussi à regarder là-dedans.
Ouais, bah alors oublie pas, effectivement, juste peut-être pour corriger en effet quelques petites informations. Ça date pas de l'année passée en fait que Endeavor a été acheté en fait, a acheté l'UFC. Ça date de 2016 en fait que la structure alors, qui s'appelait. C'est ça. Mais en effet, tu l'as bien dit. Effectivement, par contre, l'introduction en bourse date effectivement d'il y a à peu près 2 ans, là, quand c'est rentré à la bourse de New York. Là, mais. Avant, pour retracer un peu le parcours en fait de l'UFC, rappelez-vous, cette ligue-là a été créée en fait dans les années 80, si je ne me trompe pas, qui était à l'époque, c'est l'idée en fait, c'était de créer en fait une ligue de sport d'arts martiaux mix, parce que c'est le nom en fait réel du sport de combat de l'UFC. Les gens souvent disent UFC, mais le vrai nom c'est le MMA, donc Mixed Martial Arts. Et le but était de faire un espèce de, en fait, de championnat qui serait le meilleur combattant, donc le Ultimate Fighter, entre des boxeurs, des lutteurs, des catcheurs, etc. Et effectivement, bah, aujourd'hui, c'est la ligue qu'on connaît, effectivement, avec peut-être les plus grands talents que tu as mentionnés. Conor McGregor en fait partie. Vous connaissez peut-être, évidemment, d'autres champions. Bah, pour nos auditeurs français, peut-être vous avez entendu parler de Cyril Gane, qui a perdu, évidemment. Je sais que, JP, tu voulais remuer le couteau dans la plaie.
T'as dit d'anciens champions, je peux le tolérer, mais bon, aurait-il dû être champion? Bref, on n'embarque pas dans une discussion.
Sinon, on va ouvrir un deuxième podcast dédié au MMA, parce que vous le savez, c'est une de nos passions, donc évidemment, ça va peut-être se laisser transparaître, évidemment, dans ce qu'on va dire, mais il y en a eu d'autres, évidemment, des très grands champions. Georges Saint-Pierre, c'est un des plus connus canadiens, québécois aussi, donc... Ronda Rousey, tu l'as nommé du côté des femmes, effectivement. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une des ligues évidemment les plus importantes dans l'entertainment, puis dans les sports de combat. Ça a détrôné carrément des industries comme la boxe, même si aujourd'hui ça reste assez mineur en termes de revenus versus la boxe. Tu l'as bien dit, le WWE, qui était avant, quand j'étais jeune au collège. Et ben à l'époque c'était le catch vraiment qui faisait vendre, en tout cas il y avait les soirées de combat étaient vraiment regardées chez nous là, donc avec d'autres types genre comme Rey Mysterio, moi je me souviens de ça, l'Undertaker, etc. Bref, moi j'ai jamais été un grand fan évidemment du côté WWE parce que ça a toujours été vu comme c'était du cinéma évidemment là, mais tu l'as bien dit, par contre ça reste une énorme machine à fric, hein. Puis Vince McMahon évidemment est évidemment quelqu'un qui a fait fortune, évidemment, dans cette industrie de l'entertainment, puis dans la création, justement, de spectacles, parce qu'on parle véritablement de spectacles dans cette industrie-là. Et c'est vrai que, bon, alors, la transaction, tu l'as bien dit, le but, ce serait, évidemment, de créer un espèce de nouveau champion, on va dire, des arts martiaux, puis de l'entertainment au niveau dédié au sport de combat, puisque, bon, quand même, le WWE et l'UFC, ça reste deux produits très similaires, puisque... le business model, vous le savez, au niveau des sports de combat, ben ça reste un peu différent de ce qui se fait dans le sport des autres sports professionnels. La plupart des sports professionnels vivent des droits télévisuels, c'est-à-dire d'un montant qui est donné par effectivement des diffuseurs pour transmettre les matchs. Évidemment, ces diffuseurs-là te chargent un abonnement par le câble ou par Internet, donc tu es normalement... comme par exemple DAZN, on en avait parlé, je pense, il y a quelques temps, je crois, dans un autre podcast, mais... Tous ces diffuseurs-là payent effectivement les ligues sportives pour diffuser leur contenu, pour avoir le droit de diffuser le contenu. L'UFC et les sports de combat font un peu catégorie à part parce que ça fonctionne avant tout sur le modèle du pay-per-view. Alors, si vous ne connaissez pas, le pay-per-view, c'est ce qu'on appelle la télé à la carte, c'est le nom exact en français. Donc, c'est le fait de pouvoir acheter le combat, en fait, comme si tu regardais un billet de spectacle, tu dois payer... entre 50 à 80 dollars la soirée pour regarder tes 5 combats. Évidemment, nous, on paye évidemment à chaque combat évidemment les 80 dollars. Certains verront un peu d'ironie. Dana, si tu nous écoutes, on paye évidemment chaque soirée de combat, sache-le. C'est ça qui est assez drôle, évidemment, comme business model, parce qu'évidemment, c'est très très cher. Vous allez me dire, putain, c'est hors de prix. Et c'est comme ça qu'ils font évidemment énormément d'argent. Donc ce move-là est essentiellement pour faire du fric. Hein. On ne va pas se cacher, le but c'est évidemment d'apporter la recette qui a fonctionné dans l'UFC, dans la WWE. Parce qu'on sait que cette ligue-là, si effectivement elle continue de grimper en termes de revenus publicitaires, puis de revenus de télévisuels, et ben, le pari c'est que les droits télé vont continuer à augmenter. C'est vraiment ça, c'est faire un pari que... l'industrie de l'entertainment va valoir toujours encore plus et que les gens vont être toujours prêts à payer plus pour regarder leur contenu favori. Donc c'est un peu la clé derrière cette transaction-là. Évidemment, il y a des synergies qui sont détaillées. Ça, bon, je pourrais vous l'envoyer, en tout cas vous mettre en, en annexe le fameux pitch deck. Donc c'est comme une espèce de présentation PowerPoint qui est envoyée aux investisseurs pour regarder c'est quoi les avantages de la transaction. Bon, évidemment, on nous pitch évidemment des synergies, des économies de coûts, évidemment. Je vous avais déjà expliqué comment ça marchait dans l'épisode sur les fusions-acquisitions. Bon, évidemment, le but, c'est d'économiser de l'argent sur des postes récurrents ou des postes, pardon, qui se dédoublonnent, donc par exemple les ressources humaines, etc. Bref, je passe rapidement sur cette partie-là. Et évidemment, c'est d'importer, comme je te l'ai dit, le business model qui a fonctionné à l'UFC et au PowerSlap, parce que c'est aussi un des autres produits qui devrait être évidemment intégré dans l'offre, comment dire, de cette nouvelle entreprise combinée. Dans le PowerSlap, c'est l'espèce de combat avec les mecs qui s'envoient des baffles. Je trouve ça absolument absurde, cette ligue-là. Là. Mais tout ça va faire partie, évidemment, de la même famille, évidemment, de produits. Bon, et exact. Tu l'as dit, effectivement. Et puis, tu l'as dit, c'est ça, la structure. Je vais passer rapidement là-dessus. Mm-hmm. Là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus passionnant. C'est vrai que la structure est assez rigolote aussi. Elle me fait rappeler, d'ailleurs, un petit nom québécois. Peut-être ça va te dire quelque chose. Cogeco. Ça m'a fait penser à ça. Oui, c'est une compagnie en fait où il va y avoir deux stocks listés, un pour la société mère qui va posséder 51%, donc en l'occurrence Endeavor, donc il va continuer à exister, et un stock qui est spécifique à la filiale en fait. Donc là en l'occurrence cette nouvelle compagnie qui aura le ticker Tikeo. Alors, ils ont déjà réservé le ticker qui est absolument rigolo là, mais pour technical knockout, pour ceux qui n'auraient pas compris là, donc. Un chaos technique en français. Et c'est ça. Et en fait, c'est ça. Tu vas avoir deux niveaux en fait, d'action. Tu auras la société mère. Donc, si tu veux t'exposer à tout le portefeuille de Endeavor, qui ne se limite pas uniquement au sport, mais aussi à d'autres sociétés. Je crois que IMG en fait partie. IMG, c'est une société qui fait tout ce qui est de la gestion de sportifs professionnels. Donc, tu sais, les contrats, par exemple, de télévisuel et puis les contrats de pub pour les stars, notamment, je crois que c'est Serena Williams qui est avec eux, l'organisation de grands événements sportifs comme l'Open, je crois, de Madrid ou de Miami. Je ne sais plus l'un des deux, là. Des événements aussi sportifs internationaux, le Super Bowl aussi. Le dernier Super Bowl était organisé par eux, en tout cas celui qui était à Las Vegas. Je pense que c'était celui il y a 2 ans. C'est ça qui est assez drôle, c'est que finalement, tu vas pouvoir t'exposer soit à la compagnie qui fait juste des sports de combat, soit à toute espèce de portefeuille diversifié de plein de compagnies différentes. Puis rendu là, ce sera à ton choix de le faire, là, ou pas.
Exact. C'est bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur le sujet, là. Alors qu'une fois, c'est une transaction qui était proche de notre cœur par l'intérêt pour les compagnies. C'est le fun de parler de fusion-acquisition, mais c'est le fun quand il y a quelque chose quand le produit nous intéresse, et je pense que le monde de l'entertainment a beaucoup à gagner. On en avait parlé également dans le passé, mais c'est tout ce qui permet une forme de consommation de contenu qui n'est pas seulement lié à des droits télé, mais également à du contenu multimédia. C'est épouvantable. On parlait du streaming, on parlait de tout. Il y a tellement de possibilités pour des compagnies qui ont un produit récurrent. C'est le cas de la WWE qui ont au moins 2 événements, je pense, qui se passent presque par semaine. L'UFC, on parle de près d'1 par semaine, pas nécessairement de tout le temps la même envergure, mais quand même, il y a du contenu, il y a de la capacité justement de générer des revenus, et il y a aussi une force d'individus qui sont souvent très facilement présentables et commercialisables, si on peut dire. Tu sais, des personnes faciles à nommer, on l'a dit, McGregor côté UFC, de l'autre côté, de plus en plus on en parle, mais ce fameux Logan Paul qui fait littéralement tout est rendu une star de la WWE qui est littéralement universel. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. On verra la suite. Comme une fois, on l'a dit, c'est courant 2023 que la transaction va officiellement avoir lieu. Mais les retombées, les résultats seront intéressants à suivre là, dans les performances financières de cette nouvelle filiale de Endeavor, tu l'as bien mentionné.
Ouais, puis on va continuer évidemment à suivre ce qui va se passer, parce que même en tant que fan, évidemment, ça va nous impacter. Puis on va continuer évidemment à suivre, à vous partager s'il y a des nouvelles vis-à-vis de cette transaction-là. Bon, elle risque de se faire, puisque le conseil d'administration a déjà mis son oui, évidemment, là-dessus, côté WWE. Donc, les chances que ça passe pas sont proches de zéro, en fait. Tout le monde est à gagner, et puis c'est une question de fric, hein, encore une fois. Là. Le but est d'optimiser les revenus des deux compagnies ensemble, de faire des économies de coûts, comme on l'a mentionné précédemment. Puis effectivement, de créer en fait encore une fois utiliser en fait le track record pardon, de Endeavor pour optimiser les revenus évidemment de ces trucs-là. Si je peux terminer évidemment sur juste un dernier point, c'est clair que ce qui a donné beaucoup d'appétit évidemment à faire ce genre de transaction, bah, c'est le fameux deal ESPN aussi, qui est le fameux contrat qu'a signé l'UFC il y a quelques années de ça, là, qui est un espèce de montant mégalo en fait de plusieurs milliards de dollars qu'ils ont signé avec ESPN, donc qui appartient à Disney, pour justement diffuser l'UFC, donc ça devient le diffuseur officiel évidemment de la ligue. Et aujourd'hui, c'est quasiment 70% des revenus de l'UFC qui sont juste du contrat, en tout cas télévisuel. Le reste, évidemment, c'est du sponsorship, c'est les billets, évidemment. Ça reste assez mineur. Le nerf de la guerre, encore une fois, sont les droits télé. Et évidemment, on va continuer à suivre la progression de cette transaction-là.
Exact. Donc, on peut maintenant passer à notre deuxième segment. Je l'ai qualifié de au son de la cloche. Je pense que ça peut être un instant économie. Je pense que ça peut être un place au débat. Là. Donc, un bon melting pot de sujets, mais officiellement, un petit au son de la cloche pour terminer, qu'on commence à l'instant. Parfait. Donc, je l'ai mentionné également, le sujet d'actualité, tout comme le premier. On a vu l'annonce, je pense que c'était ce matin ou durant la nuit, là, tout dépendant. Mais l'annonce là, de l'OPEC+, de ce fameux oligopole qui allait réduire volontairement leur output, leur production là, d'ici à la fin 2023. Je pense que c'est quelque chose qui allait commencer justement là, au courant des prochains mois et durer quand même assez longtemps. On parle d'une baisse d'à peu près par jour. Là, c'est du 1,66 million de barils de pétrole par jour au travers des différents pays membres là, qui ont suivi l'Arabie Saoudite. Là. L'Arabie Saoudite a lancé le bal et également ceux qui ont eu la coupure la plus importante. Qui dit réduction de l'offre dit également hausse du prix du baril. On a vu le Brent là, qui a pris 5,31% aujourd'hui a fermé à 84,13 le baril. Le WTI au niveau US a pris 5,48, donc autour de hausse de 5,5% pour les deux presque. Là, et le WTI est maintenant à 79,83. C'est la plus grosse hausse, je pense, en une journée depuis plus d'un an. Ce n'est pas nécessairement bon signe pour les prix à la pompe. Et on sait que les prix à la pompe, la hausse qu'on avait déjà remarquée, était un peu... C'est ce qui fait mal dans la poche des consommateurs, ce qui est également la raison pour qu'on essaie de fighter l'inflation. C'est une des grosses dépenses, c'est un des secteurs qui a énormément eu de croissance au niveau du prix à la consommation. Donc, remarquez que l'OPEC+ prend cette décision-là, ça amène encore une fois un peu de jeu de coulisses politiques. On se rappelle à l'époque, lors de la première annonce, il y en avait une, je pense, l'année passée, là, où l'OPEC également avait mentionné une réduction en partie de l'Arabie Saoudite avait annoncé, je pense, 1 million de barils à eux seuls l'année passée. Et Biden était sorti, la Maison-Blanche était sortie en mentionnant qu'il y allait avoir des répercussions. Ça n'avait pas amené grand-chose au final. Et même si l'administration américaine n'est pas encore clairement en faveur de cette réduction volontaire de l'output là, de la part des pays de l'OPEC+, on se retrouve quand même là, dans une autre problématique. Ça met encore une fois une certaine pression au niveau des banques centrales. On revient à notre sujet des dernières semaines, là, mais... La hausse, il y a deux causes. Bon, oui, l'annonce de la réduction de l'offre qui va avoir lieu dans les prochains mois, ça n'aide pas. Également, il y a un phénomène qui montre que le passage du baril, entre guillemets, d'hiver vers le baril d'été amène toujours une certaine hausse au niveau des cours du baril, dépendamment de la saison. Donc, l'arrivée avec la période estivale, ce baril-là coûtait déjà de nature et cyclique plus cher pour une année donnée. On se retrouve avec la réduction de l'offre avec un petit peu plus d'élasticité sur cette croissance-là. Donc, c'est un peu inquiétant. Encore une fois, ça ramène juste dans la vague. Bon, est-ce que la gestion de l'inflation, on va encore avoir une hausse? Je pense que c'est quelque chose qui est annoncé. Là, je disais même sur des journaux un peu typiques, le grand public au Québec qui mentionnait là, en mode « Allez faire le plein mercredi, le prix à la pompe va augmenter de 10 sous le litre et ça devrait être autour du 1,95 canadien le litre rendu en juin ou un truc de même. » Donc, on fait peur un peu au monde pour se précipiter à la pompe. Mais on se retrouve encore une fois avec des doutes sur bon, est-ce que ça va encore faire mal au portefeuille? On sait que non seulement il faut considérer le prix du baril bien au-delà de l'impact à la pompe sur l'essence. Là. Le pétrole est utilisé encore dans énormément de secteurs de l'économie mondiale. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui va être énormément à suivre. C'est dur à contrôler. L'OPEC Plus étant un oligopole, et on en parlait en off, je ne voulais pas faire... Je blaguais un peu à Gab en disant que je croyais à deux logiques universelles, la fin des oligopoles et la paix dans le monde. Là. Donc c'est un
oh
peu...
Là là.
C'est, C'est un peu une blague, mais c'est presque ça. Là. C'est le côté
j'ai déjà la larme à l'œil. J'ai déjà la larme à l'œil. Là.
Exact. C'est triste un peu qu'il y ait autant de flexibilité. La justification d'ailleurs, je disais ça un peu, de l'Arabie Saoudite disait ben, c'est une décision volontaire pour la pérennité du marché du pétrole. Puis c'est Gab, tu disais en off, tu mentionnais si on se mérite.
Non, c'est pour l'argent.
Ben, exactement, c'est ça. L'argent. On sait qu'en baissant l'offre, on va faire augmenter le prix, ça va nous faire plus de cash par baril, donc tant mieux. C'est un peu ça la mentalité. Donc, on se retrouve un peu avec bon, les pays du Middle East là, qui l'ont baissé. La Russie, qui fait partie de l'OPEC+, d'ailleurs, pas très, très surprenant, a décidé de suivre le bal également et de volontairement réduire leur output. Je pense qu'il y a aussi un peu une approche de Russia against contre l'Ouest, si on peut dire, qui tombe en ligne de compte. Donc, c'est une autre manière de faire mal, si on peut dire, aux pays, je pense, de l'OTAN. Mais c'est ça, on est dans un contexte un peu particulier, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière annonce de baisse ou de hausse ou de modification de l'offre de l'OPEC+, et ils sont tout à fait en droit de le faire, l'oligopole est en place pour ça, et c'est eux qui détiennent en majeure partie la ressource. Je peux très bien être canadien et avoir des sables bitumineux en Alberta, ça fait partie de la logique que chaque pays qui a du pétrole peut gérer la ressource comme ils le veulent, surtout lorsqu'on fait un oligopole de certains pays. Mais c'est sûr que c'est un petit peu embêtant, la meilleure vision que j'ai, c'est peut-être une prise de position, je ne pense pas que c'est forcément le bon moment, comme c'était pas le bon moment lorsque notre cher Powell a fait une hausse de 0,25 il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Je ne considère pas que l'OPEC Plus fait vraiment un très très bon move pour l'économie mondiale dans un contexte où on a encore de l'inflation qui est stagnante. De faire une hausse qui va avoir un impact direct sur un des secteurs et une des dépenses des households qui sont les plus importantes au-delà de l'épicerie. Là. L'essence reste significative. Je ne pense pas que c'est le bon timing, mais encore une fois, leurs décisions, ils sont dans le droit de le faire. C'est juste malheureux qu'on est encore... Et c'est encore une fois un autre moment où Gab, tu vas avoir une larme à l'œil, là, mais un autre moment où notre méga-dépendance au pétrole et à l'essence montre encore des problématiques. Bon, voilà, il fallait que Gab verse une autre larme. Mais voilà, on n'est pas rendu, encore une fois, à ne pas pouvoir considérer l'OPEC+ comme étant un joueur important dans l'économie mondiale. On est encore extrêmement dépendant à l'or noir. Voyons la suite, bien évidemment, mais c'est sûr que encore une fois, si vous avez votre Peugeot de prêtre, levez-vous demain matin, allez chez Total Energy, c'est le temps, là, ça va monter.
Non, mais c'est surtout que oui, en effet, tu l'as bien dit, cette décision, elle impacte énormément les produits, en tout cas les pays qui n'ont pas de production interne. En Amérique du Nord, évidemment, on est beaucoup moins impacté évidemment par, pardon de l'anglicisme, parce qu'impacté, ça se dit pas, on a beaucoup moins on subit beaucoup moins les conséquences, pardon, des décisions de l'OPEP, parce que, vous le savez, en tout cas, le marché nord-américain est dépendant et autonome, en fait, en termes énergétiques. Puis il y a énormément de producteurs qui existent, effectivement, même en Amérique du Sud, notamment la Colombie. On en avait parlé dans l'épisode de la Colombie, mais aussi le Venezuela, qui est un des plus gros producteurs d'Amérique du Sud. Le continent africain lui-même, le vrai, celui qui est vraiment, pardon, dans la chenoute, pour pas dire... J'utilise l'expression québécoise pour ne pas dire le terme vulgaire, parce que c'est l'Europe, parce que l'Europe évidemment, est évidemment très dépendante des énergies qui viennent notamment de l'Afrique du Nord, mais aussi de la Russie, qui viennent aussi et du Moyen-Orient. Et là, pour le coup, c'est vrai que l'OPEP a un impact énorme, parce que ces décisions vont impacter évidemment le coût du prix, en tout cas le prix de l'essence à la pompe. On sait qu'il est déjà très élevé en Europe, il est déjà plus élevé que d'ailleurs les niveaux pré-pandémie partout dans le monde, hein, puisque en effet l'inflation a quand même son impact là-dessus, parce que oui, en effet, il y a le prix du brut qui est pris en compte évidemment dans le calcul du prix de l'essence, mais aussi évidemment tout un tas de coûts, les coûts notamment de raffinage, les coûts de stockage, les coûts de transport aussi pour transporter évidemment le brut. Les coûts évidemment aussi, c'est ça, de distribution, les taxes évidemment qui sont hyper, très élevées, notamment dans la plupart des pays qu'on a mentionnés en Europe, et évidemment les taxes sur l'essence, c'est hyper élevé, c'est quasiment la moitié, et je pense que c'est même plus que ça, hein. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est plus de la moitié évidemment du prix que tu payes à la pompe, donc c'est une manne financière évidemment hyper importante évidemment pour l'État, donc... ça ne baissera pas pour cette raison-là. Donc plus le prix est élevé, d'ailleurs plus l'État en fait en réalité est réellement gagnant. Bon, dans les faits, il ne l'est pas parce qu'en ce moment, il subventionne depuis en fait, le début de la guerre en Ukraine, l'énergie, notamment l'État français avec les fameux chèques énergie. Donc on donne de l'argent évidemment gratuit, bon, maintenant qui coûte très cher parce que les taux d'intérêt commencent à remonter. En fait, ont déjà remonté, mais Donc, même si c'est un peu plus tard dans la zone euro, au niveau des taux d'intérêt. Mais évidemment, c'est très intéressant, évidemment, ce qui se passe avec l'OPEP, parce que ce dernier joue un jeu, évidemment, qui est dangereux pour les Européens. Bon, par contre, il y a un point qui est quand même assez intéressant, puis ça, je trouve que c'était un truc assez rigolo, justement, à ce qu'on reparle, parce qu'on en avait parlé en off, ça fait pas si longtemps. Je crois que c'était le week-end dernier. Et je trouve ça intéressant, mais la notion d'oligopole, en fait, par définition, c'est un univers qui est assez instable, parce que par définition, les oligopoles ont tendance, entre eux, en fait, à se compétitionner, à qui va essayer d'aller chercher la plus grosse part du gâteau. Donc, vous le savez que les oligopoles ou les cartels, parce que les deux sont assez proches, eh ben, ont tendance à péter pour une raison qui est assez simple, qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Et ça, si vous êtes curieux de savoir c'est quoi ce fameux dilemme du prisonnier, bon, ça, c'est un truc courant que les gens connaissent en première année d'éco. Souvent, c'est le premier truc qu'on t'apprend, le fameux dilemme du prisonnier. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite juste à taper dilemme du prisonnier dans Google, parce que pour le coup, ce sera un peu long d'expliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce dilemme-là fait en sorte qu'en fait, bah, les gens ont tendance, tu veux, à au début être d'accord pour pouvoir s'entendre sur les prix. Mais cette entente ne dure jamais très longtemps parce qu'en fait, tout le monde veut essayer en fait, de profiter des autres et essayer de vendre plus en fait. Parce que fixer les prix, évidemment, ça implique évidemment qu'on s'entende sur les quantités et les quantités échangées et donc sur les prix. Alors que bon, des fois, tu as envie de maximiser ton profit à toi tout seul en essayant peut-être de vendre un peu moins cher et du coup de péter la fixation des prix, tu vois. Donc c'est ça qui est assez intéressant en tout cas avec le dilemme du prisonnier, c'est que ça te fait comprendre, en fait, justement, que la logique, évidemment, d'oligopole, bah, est assez difficile, en fait, à faire tenir dans le temps. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, pour le moment, cette entente fait en sorte que les prix sont un petit peu plus élevés parce qu'ils ont commencé, effectivement, à baisser. On se souvient, on avait parlé du fameux cap sur l'essence, sur le prix du baril de brut qui avait été imposé par les Occidentaux. En tout cas, c'était sur le baril de pétrole russe. Mais ce cap-là, avait apparu en fait, sur les cours mondiaux, en réalité, puisque, on le sait, le baril avait descendu à peu près $75 le baril. Bon, là, il est remonté à peu près à 80. La question est de savoir, est-ce qu'il va remonter à des niveaux encore plus élevés que ce qu'on a connu dans la première partie de la guerre en Ukraine ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y avait vraiment eu un choc sur l'offre qui faisait que, bon, là, on avait beaucoup d'incertitudes. Là, c'est pas pareil. Là, évidemment, on a encore une entente qui se fait entre les pays exportateurs de pétrole. Bon, oui, effectivement, ils veulent monter les prix, mais qui n'a pas envie de monter les prix, si tu veux ? En ce moment, l'industrie fait que, évidemment, aujourd'hui, les prix augmentent, l'inflation, elle se transfère effectivement, tu l'as dit, des biens de première nécessité, mais aussi sur les prêts. Elle apparaît, évidemment, sur les produits énergétiques. Donc, c'est un espèce de dilemme et malheureusement, on n'a pas le choix, évidemment, de vivre avec. Et je pense quand même que là, la question qui reste de se poser, bah, c'est un point de vue social, en fait, dans les pays européens. Ça commence à être une vraie problématique, les prix d'énergie qui sont records. Comment va s'arranger ? Bah là, rendu là, ce sera aux décideurs politiques de diriger. Puis je pense que JP, tu as ton opinion peut-être un peu plus tranchée sur le sujet.
Ben, c'est effectivement, là, je pense qu'on l'avait déjà avec le gaz naturel en Europe, là, mais bon, c'est sûr que la valse de l'or noir, c'est un cycle, je le mentionnais, là, les hausses et les baisses de l'offre, c'est justement un peu la raison pourquoi les annonces de l'OPEC Plus font le tour des journaux dès que c'est quelque chose qui est sorti. Mais c'est certain que, bon, il n'y a pas de bonne recette pour faire en sorte qu'il y ait des changements. Ça reste, et c'est ce qui est passionnant dans tout ce genre de décisions économiques et financières-là, c'est l'envers de la médaille politique. C'est la raison de la stabilité des relations avec plusieurs de ces pays, des pays justement du Moyen-Orient qui sont exportateurs du pétrole, membres de l'OPEC+, avec par exemple les États-Unis, vient directement être basé là-dessus. C'est l'Arabie Saoudite, avec la quantité de barils qu'ils produisent à chaque jour, a tellement d'impact au final sur ce qui se passe en Occident, sur ce qui se passe au niveau de la consommation de l'essence aux États-Unis et même sur la production globale, encore une fois, par l'importance, par exemple, du pétrole dans le plastique. Ça montre à quel point ces fameuses relations bilatérales-là et ces jeux de coulisses politiques prennent tout son sens. On l'avait mentionné également dans l'épisode, comme je le mentionnais, là, sur le gaz naturel, avec l'importance pour la France d'avoir des relations avec peut-être certains pays qui étaient un petit peu en moins bon terme, parce que soudainement, ils avaient peut-être du gaz naturel à leur envoyer. C'est un peu la même chose. Donc, c'est intéressant. Ça reste quelque chose de problématique pour le contexte actuel. Mais ça reste quelque chose de normal et d'attendu à bien des égards. Espérons, moi la chose que j'espère, c'est que ça ne va pas faire en sorte que Powell va encore une fois décider de se faire un petit 3 jours de sandwich pas de croûte pour nous sortir encore une hausse de 0.25, 0.50 en mentionnant que la hausse des cours du pétrole a eu un impact drastique sur le fait que l'inflation aura peut-être augmenté un peu dans les prochains mois. Espérons que ça ne sera pas le cas parce que moi je revois... En fait, on va faire un petit repeat de une nouvelle annonce de hausse, encore une fois trop de détention par des banques régionales américaines de bons du trésor, puis on va faire un repeat complet de ce qu'on a vécu dans les dernières semaines.
Après, ça risque pas de se passer parce qu'encore une fois, c'est une inflation qui est basée vraiment sur les cours énergétiques. La banque centrale, malheureusement, elle a assez peu d'actions, assez peu de leviers en fait là-dessus. C'est plus sur l'inflation évidemment de cœur, donc qui exclut les produits. Rappelons la décision de la Fed, là, mais c'est l'inflation, core inflation, c'est l'inflation, moins l'inflation qui est basée sur les produits énergétiques et les produits de nourriture, donc les foods. Donc c'est plus là, effectivement, qu'elle a un impact, c'est sur tout ce qui est discrétionnaire, où en gros, t'as un levier important. Donc, par exemple, d'acheter des voitures, évidemment, si les taux des bagnoles... des crédits pour les bagnoles augmentent, oui, évidemment, là, ça va ralentir. Mais bon, donc, je pense pas que ça va avoir...
La ligne reste fine tout de même au niveau de l'intervention. La ligne reste fine.
La ligne est fine, et puis bon, et comme l'Américain moyen dépense tout sur sa carte de crédit à 20%, au final, c'est assez important comme quoi. Là.
Effectivement. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on vous sort encore une fois le deux sujets d'actualité moins liés à la finance mondiale, ce qui fait du bien, je pense, pour le collectif. Là. Gab et moi travaillons dans le monde financier. Des fois, c'est bien de ne pas juste parler de ce qui se passe un peu dans nos bottines. Mais espérons que vous avez apprécié l'épisode comme toujours. Vous savez où nous retrouver. Donc, sur YouTube, on a vu, et c'est un peu la grande expérience actuelle, à quel point YouTube a un nombre de visionnements qui est assez impressionnant, assez record pour les semaines consécutives, presque. Là. Donc, on salue tous les auditeurs sur YouTube, notre plateforme clé, encore une fois, pour le partage de commentaires publics ou non. Donc, si vous avez commentaires, sujets, avis, peu importe, vous pouvez le mettre dans la zone justement dédiée à cet effet en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié également le contenu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour avoir les notifications. Gab, mais également dans la zone description, l'adresse courriel, tu en parlais tout à l'heure, là, qui est fortement utilisée. On apprécie toujours de voir vos commentaires, sujets, encore une fois, etc., de privé, donc ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, vous restez des auditeurs sur les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Overcast, sur Deezer, sur etc. On a fait un petit branding gratuit avec le fait que Anchor avait été vendu officiellement à Spotify, mais on sait que je crois qu'encore à ce jour, la majorité des auditeurs audio se fait par l'entremise de Apple Podcasts, si je ne me trompe pas. Étant donné que c'est, je crois, la plateforme
c'est
la plus
cas.
Clé en Europe et en France. Donc, vous êtes encore une fois notre bassin clé. On vous salue de l'autre côté de l'Atlantique. Mais effectivement, je pense qu'on peut déjà se dire à la semaine prochaine. Et merci à nouveau, Gab, pour ta participation.
Merci tout le monde. Salut. Bonne semaine.